D'avoir accepté donc une carte blanche suite à cette rencontre dont il aura une carte blanche au cinéma Gaumont avec deux films qui sont La dixième victime et Antiviral, et en bonus un ami et collaborateur qui s'appelle Pierre Schumacher ou Rohrer,
comme tu veux,
voilà, qui présentera aussi son film Conte barbare, parce qu'aussi Pierre Schumacher a beaucoup travaillé avec Jacques. J'ai beaucoup de projets de films, mais on pourra en parler, mais qui n'ont pas souvent.
On avait un court métrage commun, mais qui n'a pas pu être. J'avais mis sur la liste, mais il n'a pas pu être.
Pardon, il y avait un problème, c'est que les films, je les ai en 35 mm, bien sûr.
Oui.
Mais le problème qu'il y a, on en a parlé suffisamment au téléphone.
Oui, c'est ça.
Le projecteur ne marche pas ici et tout.
Voilà.
Et il y a un deuxième, il y a un troisième film que j'avais fait, qui est un moyen métrage de 37 minutes, donc déjà qui était trop long au niveau de la jauge,
oui,
par rapport au festival. Mais par contre, j'ai emmené avec moi, pour une clé USB, si c'est possible, un teaser de 3 minutes du film qu'on a, que Jacques Barbéry a concocté au niveau scénario, qui s'appelle Histoire d'ombre. Ça peut être un petit bonus au cas
où. Ok, donc on verra ça tout à l'heure.
On verra ça tout à l'heure. Et donc je tenais à dire que Jacques. Et moi, on a concocté une série, on a écrit beaucoup de choses qui n'ont pas encore vu le jour, c'est compliqué.
Mmh.
Tout est très compliqué, mais en même temps, il y a une série qui s'appelle Cerveau Direct, qui est à la recherche de producteurs, de gens, etc., et qui, à mon avis, est très barbarienne dans son univers.
Alors, moi, juste pour se mettre dans le bain, donc voilà, thématique, les mondes d'après. Qu'est-ce que toi ça t'évoque comme thématique, cette thématique, ces mondes d'après, est-ce que tu serais l'écrivain des mondes d'après? Et toi, déjà, comment t'as vécu un peu ces derniers mois et tout ça,
Par rapport au confinement, déconfinement,
oui,
etc. Ah ben, pour moi, ça a été un moment évidemment très particulier, hein. Je pense comme tout le monde, c'est la première fois quand même que le monde s'arrêtait presque de vivre comme il avait l'habitude jusque-là, de façon un petit peu hystérique et chaotique, et tout d'un coup on retrouvait un univers plutôt calme, paisible, la nature reprenait un tout petit peu ses droits. Donc c'était quand même c'était une expérience assez exceptionnelle. Donc moi j'ai vécu ça plutôt de manière très positive. Mais après, ça m'est un peu retombé sur la gueule quand ça s'est terminé, que le déconfinement a eu lieu et que je me suis rendu compte que finalement tout allait repartir comme avant, et que le monde d'après, en fait, tel qu'on pouvait se l'imaginer, n'allait pas exister. Parce que le monde capitaliste, le monde ultralibéral, lui, avait continué de vivre de la même manière, et que la parenthèse, en fait, Covid, confinement, déconfinement, avait été géré par tous ceux qui sont dans la finance, comme ils ont toujours tout géré, c'est-à-dire à leur profit, et en avaient tiré les intérêts qu'ils avaient attirés à ce moment-là. Et que le monde, en fait, de ce point de vue-là, il n'y avait pas eu d'avant et d'après, il y avait eu une continuité. Pour nous, on a eu l'illusion d'une parenthèse et d'un monde d'avant et d'après, mais en fait, pour les gestionnaires de la planète, il n'y a pas eu de monde d'avant, de monde d'après, de monde pendant. Ils ont continué à gérer la planète comme ils l'ont toujours gérée. Et, bon, un petit peu aidé quand même, je pense, par l'humain qui s'est peut-être tout d'un coup rendu compte que il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus à cet emballement et à cette hystérie à laquelle on a un petit peu de mal à s'extraire, et que là, tout d'un coup, on voyait que c'était peut-être possible. Mais dès que le déconfinement a été lancé, la plupart des gens, la première des choses qu'ils ont eu à l'esprit, c'est de retourner consommer. Les ventes de voitures ont augmenté de 25% par rapport à la même période l'année d'avant, et que finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas trop avoir confiance non plus en l'humain de base pour vraiment se dire « bon, là, il faudrait peut-être arrêter les conneries ». Et donc, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de monde d'avant et monde d'après. Il y a eu une parenthèse qui, pour moi, a été très intéressante, qui a été révélatrice, en fait. Et surtout révélatrice au moment où ça s'est arrêté. Parce qu'après, la Covid, et disons, on présente ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais c'est qu'un événement qui se rajoute à tous les événements un petit peu cataclysmiques provoqués par la dérégulation liée à la connerie humaine, quoi, je veux dire, et au capitalisme, et surtout à l'ultralibéralisme initié quand même. Parce que moi, je pense que le monde d'avant et le monde d'après se situent, à mon avis, dans les années 70-80, avec le thatchérisme, en fait. C'est là que je pense que tout a basculé, que tout a démarré, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une conséquence, en fait, de la révolution conservatrice, en fait, des années 80, quoi. Et si un monde d'avant et un monde d'après, je pense qu'il est là. Il est avant Thatcher et après Thatcher. Et là, on est dans un aboutissement d'aboutissement, puisque ça continue encore, et je pense que ça va continuer. Et ça va continuer, à mon avis, jusqu'à ce qu'on aille vraiment dans le mur, quoi. Parce que, alors, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, en fait. Et je crois que c'est la vérité, quoi. Et malheureusement, j'espère que ça ne sera pas la fin du monde qui arrivera avant la fin du capitalisme, mais c'est la seule solution.
Et d'ailleurs, ce qui revenait souvent dans les discours des gens, c'est qu'on vivait dans un monde, même encore maintenant, un monde de récits d'anticipation, un peu comme dans les années 70, certains citaient des films comme la maladie de Hambourg et tout
on
ça.
On a vécu une scène totalement apocalyptique, totalement surréaliste, en fait, et effectivement totalement science-fictionnelle, oui. Quand on sortait à un moment donné dans la rue, les rues désertes. Mais il y avait à la fois quelque chose d'inquiétant et à la fois quelque chose de très poétique, en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était assez superbe, quoi, de se retrouver avec ces rues désertes, avec ce ciel bleu. Alors là, il faisait beau, en l'occurrence, à Marseille, mais avec ce ciel bleu dégagé, avec aucune trace d'avion. Enfin, oui, on était dans la SF, on était dans une dystopie, mais finalement... Alors, évidemment, ça, c'est le côté... le côté entre guillemets positif. Maintenant, d'un point de vue économique, ça a quand même été une catastrophe. Il y a tout un tas de gens qui ont quand même excessivement morflé, qui continuent à morfler et qui ne s'en remettront peut-être pas. Alors, c'est peut-être là où on va arriver à un moment donné de rupture, une rupture. On va peut-être arriver à une rupture, parce que là, rien ne se règle vraiment quand même. On sent que ça continue à patauger. Et on essaye, on insiste avec les vieilles recettes. C'est ça surtout. On sent qu'il n'y a pas de nouvelles recettes qui vont être. Là, quand on entend tous les hommes politiques à la radio, partout, en fait, je veux dire, on retrouve toujours, ça y est, c'est reparti comme en 40, quoi. On retombe sur les mêmes schémas. Alors, il y en a quelques-uns qui essayent un petit peu de sortir du lot. Alors, j'entendais Benoît Hamon qui essayait de. Finalement, il avait un discours qui était pas trop mal, mais il n'arrivera à rien faire de toute façon. Et je pense que là, on va aller petit à petit droit dans le mur, quoi. Donc. Un avant, un après, l'après ressemblera beaucoup à l'avant, et en pire, à mon avis. C'est ça le problème, quoi. C'est que cette situation-là, on a la Covid, mais on va avoir d'autres événements de cette nature qui vont arriver, et on n'arrive toujours pas à se dire, bon, là, il faut prendre des choses en main une fois pour toutes, et faire face à ça d'une manière intelligente et réfléchie, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà.
Voilà, alors moi ce que je propose, bon là on va essayer d'un peu, pour nous c'était l'occasion vraiment de parler un peu de ton œuvre avec cette venue à Toulouse. Bon, je sais pas si tous vous êtes très familiers avec son univers, mais bon, moi j'ai découvert tes romans et tes nouvelles dans les années 80 avec les éditions Présence du Futur. Donc là, c'est la première découverte de Jacques Barbéry, mais en fait, déjà avant, tu participais, il y avait Les Locataires, par exemple, il y avait pas mal d'écritures dès les années 70, et d'emblée, tu as toujours cité aussi bien le cinéma que la littérature comme influence, comme source d'inspiration. C'était autant Philippe K. Dick que Stanley Kubrick ou 2001, par exemple.
Oui, alors 2001, c'est vraiment un élément pivot, quoi. Parce que là, c'est à la fois le cinéma et la littérature, puisqu'il y avait le bouquin d'Arthur C. Clarke, qui est le film de Kubrick. Bon, ça a été un choc. Moi, j'ai vu ça, je devais avoir quoi, 14, 15 ans. Ça a été vraiment le choc absolu, quoi. Parallèlement à ça, je découvrais également Dick, effectivement, avec Le Dieu venu du Centaure, qui est quand même un de ses bouquins les plus giclés sur la perception de la réalité, et qui fuit petit à petit, et comment, sur laquelle on a du mal à avoir prise, avec tout un tas d'histoires de drogue et d'univers où la réalité s'effiloche sans cesse. Donc ouais, ça avait été un choc. Alors ce qui a été un choc sur ces bouquins-là, pour moi, c'est que jusque-là, j'avais fait de la poésie, en fait. J'ai commencé par écrire de la poésie. Et bon, la poésie, je trouve que c'est un peu la littérature, une littérature absolue. C'est une liberté totale. Bon, c'est alchimique, en fait. C'est quelque chose d'absolument génial. Mais je sentais que j'avais besoin de structurer, d'avoir quelque chose d'un peu plus narratif, mais je ne savais pas trop comment il était possible de passer de la poésie à quelque chose de plus narratif. J'avais essayé d'écrire quelques nouvelles, mais bon, ça donnait vraiment strictement rien d'intéressant. Et c'est en lisant et en voyant 2000 Odyssée de l'espace, le roman de Dick et un roman de Ballard, Le Monde Englouti, tout d'un coup je me suis rendu compte qu'on pouvait conserver la mécanique poétique. Il n'y avait pas de choix à faire entre la poésie et la littérature plus fictionnelle, mais que un pont était possible, on pouvait garder la mécanique poétique et quand même structurer, avoir un projet narratif autour de cette mécanique poétique. Au début, bon, j'ai pas produit des trucs très intéressants, et petit à petit, j'ai réussi à me trouver. C'est-à-dire que Dick, Ballard et Kubrick, en fait, m'ont fait comprendre comment je pourrais réussir à écrire ce que j'avais envie d'écrire et de quelle manière je pourrais l'écrire. C'est pas vraiment une influence, mais c'est de faire voir qu'il était possible de s'exprimer d'une certaine manière et de pouvoir, voilà, ce que j'avais à dire, je pouvais le dire de cette manière-là. Et je me suis retrouvé à faire de la science-fiction parce que c'était, en fonction de ces auteurs-là, pour moi, une littérature d'une liberté absolue, en fait, qui permettait d'exprimer tous les fantasmes tout en conservant cette mécanique poétique qui tienne toujours compte du rythme, de la mélodie, des couleurs, et que le sens et l'expression d'un texte vient évidemment des concepts, des personnages, mais aussi de la forme littéraire, en fait, du produit littéraire brut. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis venu à écrire de la science-fiction, mais une certaine forme de science-fiction quand même.
Oui, puis
qui est toujours un peu dans les marges, en fait.
Oui, et qui s'est décliné aussi au fil du temps. Un des premiers romans, Une soirée à la plage, on était plus dans du space opéra, on peut dire.
Jacques Chambon avait appelé ça sur le quatrième, il avait dit que c'était de la art science fantasmée, et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un côté art science, effectivement, on a un astronef qui aboutit sur des planètes, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, on est dans un truc totalement psychanalytique, on est dans la mémoire des personnages, en fait, à un moment donné, ça dérape, quoi. Donc c'est un space opéra mental, en fait, quoi, à vrai dire.
Et de toute façon, ça, c'est le rapport à la mémoire.
C'est
quelque chose qu'on
retrouve venu très vite,
ça. Dans tes derniers...
Oui, ça, c'est un peu une obsession. La mémoire et la perception de la réalité, en fait, quoi. Qui est liée à la mémoire, qui est liée à la temporalité, alors le temps, la mémoire, et la perception la perception, en fait, de manière générale, quoi, du monde.
Oui, parce que d'emblée, j'ai l'impression...
Le doute sur tout ce que notre perception nous livre, en fait.
Oui, c'est que dès le départ, j'ai l'impression que ton univers, il était très, très défini. Il y a déjà presque tout dès le début, dans tes premières nouvelles. Déjà, il y a un rapport, par exemple, au corps, qui est assez délirant. Hein. Il n'y a aucune limite dans les romans de Barbery. Les corps, ils mutent, ils se transforment.
Ils rentrent en symbiose avec d'autres, voilà. D'autres entités. Mais ça rejoint, du coup, plus récemment, ça a rejoint les travaux de Donna Haraway, en fait. Donc, anthropologue, philosophe, hein, je ne sais pas si vous connaissez... et qui essaye de définir en ce moment, hein, bon, alors on a parlé de l'anthropocène, puis du capitalocène, et là elle définit le Cthulucène. Alors Cthulucène, Cthulhu évidemment Lovecraft, mais c'est aussi parce que c'est les tentacules, c'est les poulpes, les tentacules, les ramifications, les ventouses, et c'est... L'idée, disons, un petit peu générale, c'est qu'il faudrait, alors peut-être, pour éviter la catastrophe généralisée, se resituer un petit peu dans la biodiversité d'une manière différente, essayer de trouver une place différente dans la biodiversité, plus égalitaire avec les autres espèces, avec lesquelles il pourrait y avoir des interactions, des osmoses, du symbiotisme, et de manière à se projeter dans une globalité terrestre et non pas se prendre pour le démiurge absolu de la planète et en faisant fi de tout le reste comme si c'était de la merde, quoi. Et ça serait peut-être une ouverture possible sur le devenir de l'humain, en fait. C'est qu'il essaye de se resituer différemment dans la biodiversité. Qu'il faudrait déjà un peu restaurer d'ailleurs, et voilà, et retrouver une place un peu plus égalitaire avec la vie en général, quoi, et ce qui fait la faune, la flore, etc., même les pierres à la limite sur Terre, quoi.
Et après, ton intérêt pour tu parlais de hard science. Mais ton intérêt pour la technologie, ça va de, je sais pas, de l'intelligence artificielle.
Oui, mais ben après, oui.
Ça c'est arrivé quand vraiment? Parce que toi, au départ, tu n'avais pas un parcours qui allait forcément te mener vers ça.
Ben, c'est-à-dire que j'ai quand même fait des études de médecine, malgré tout. Je suis chirurgien dentiste à la base. Bon, c'est.
Dentiste, ouais, c'est quand même.
J'ai une petite. Petit crochet. Un petit peu bizarre, mais bon. Donc tout ce qui est quand même voilà, scientifico-médical, enfin j'ai quand même déjà quelques notions là-dedans. J'ai toujours été attiré par ça, par justement tout ce qui est métamorphose, mutation, etc., a été alimenté quand même par toutes les connaissances que j'ai pu avoir pendant les études de médecine. Après, le côté plus industrie, plus mécanique, oui, là, je pense que ça vient de Ballard. Je pense qu'il y a une petite influence de Ballard quand même à l'époque d'Atrocity Exhibition et de Crash. Bon, le fameux mariage entre la chair et le métal, quoi. Voilà. Là, oui, je pense que j'ai été un petit peu influencé par Ballard, peut-être Baudrillard aussi, comment dire, c'est. Et Cronenberg d'ailleurs. Parce que le cinéma. Enfin, là, on parle pas mal de littérature, mais le cinéma. Enfin, j'ai puisé beaucoup d'inspiration. Enfin, inspiration. C'est même pas vraiment d'inspiration, mais une certaine forme de catalyse, quoi, avec certains auteurs comme Cronenberg, Lynch. Alors, Lynch, c'est plus d'un point de vue formel, c'est plus au niveau de trouver du sens, d'exprimer du sens dans ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, ce qui est un peu entre les cases, en fait. Et ça, je trouve que Lynch est très fort. C'est-à-dire que, en fait, le plus intéressant dans un film de Lynch, c'est les parties qu'on comprend le moins, finalement. C'est là où on se questionne le plus. Et c'est plus dans l'esprit structurel et stylistique. Après, c'est vrai que Ballard, oui, avec sa période dite de béton, en fait, avec l'île de béton, IGH, l'adaptation d'IGH, d'ailleurs, est pas mal. Je ne sais plus quel est le. Je sais pas si tu.
High Rise de Ben Whitley.
Ouais, c'est oui, ça, ce qui est pas mal du tout.
Ouais, carrément.
Très bonne adaptation. L'île de béton avait été adaptée pour la télé aussi, bon, un petit peu plus classique, mais qui était pas mal. Et puis Crash, évidemment, ça a été adapté par Cronenberg. Mais l'esprit, et c'est marrant, mais l'esprit est plus proche de son fils, et du film Antiviral qui est dans la programmation de ce soir. Je trouve que Brandon Cronenberg est plus dans l'esprit de Ballard en fait que le père. On l'a souvent associé à Ballard, il a d'ailleurs adapté Crash, mais il a un petit côté, un petit peu presque à la limite du steampunk, c'est toujours un peu crade, il y a de la rouille partout, on est dans une espèce de truc. Alors que Brandon, c'est tout blanc, c'est tout métallique, c'est tout nickel, on est dans une espèce de truc high-tech total, aseptisé, très froid, et qui rejoint plus la période béton, je trouve, de Ballard en fait.
Et d'ailleurs, en parlant du cinéma, j'ai l'impression que d'emblée, quand tu avais commencé, soit dans les fanzines ou les premières éditions en poche, il y avait le travail avec Philippe Satiak notamment, il y avait déjà des sortes de mise en image de ton univers par des graphistes,
oui,
dans les livres sur lesquels, et encore aujourd'hui avec dans les livres chez La Volte. Il y a quand même presque un univers graphique Jacques Barbéry. Même si c'est pas toi qui l'assure, mais il y a les gens avec lesquels tu travailles.
Oui, à l'époque des locataires, en fait, le but c'était de travailler vraiment en symbiose, texte et image, c'est-à-dire qu'on travaillait en parallèle, et le texte initiait certains dessins, qui ces dessins eux-mêmes avaient un effet retour sur le texte. Et donc il y avait un aller-retour permanent entre le texte et l'image. Avec Sadiac en l'occurrence, Mondokan a été écrit comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien que ce soit, quand Mondokan est publié, qu'il y ait les dessins de Sadiac, puisqu'il y a eu vraiment un effet boomerang entre la création des dessins et l'écriture du texte. Et oui, mais je pense avoir une... C'est vrai que quand j'écris, je vois... Enfin, c'est très cinématographique, en fait. Et j'ai été de plus en plus dans ce sens, puisque là, maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai oublié de faire un montage. C'est-à-dire que je me retrouve avec des scènes que je suis obligé de monter comme un film, en fait. Jusqu'à il y a quelques temps, j'arrivais encore à structurer une certaine chronologie, même si à l'intérieur, au niveau du récit, c'était très mouvementé, avec des problèmes temporels, etc. Mais il y avait une chronologie de l'écriture. Là, j'ai de plus en plus besoin d'avoir des paquets de scènes et ensuite de faire un montage. Donc vraiment comme un truc cinématographique, parce que je le vois en image et je vois vraiment les articulations entre les chapitres de façon très cinématographique. Il faudrait presque j'arrive à faire des zooms, voilà. Alors j'essaye d'ailleurs, mais c'est pas toujours très évident, mais avec des procédés cinématographiques, c'est très visuel en fait.
Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc dans l'œuvre de Jacques Barbéry, il y a aussi tous les écrivains font pas ça, c'est que tu as repris. Par exemple, certains de tes premiers romans, tu les as retravaillés comme des director's cut presque.
Tout à fait.
Tu les as retravaillés plus tard. Il y a aussi le fait que tu as pris aussi des romans inachevés. Notamment, alors Jacques Barbéry a aussi fait pas mal de collaborations, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Jouanne.
Enfin, qui est décédé.
Oui. Et qui et du coup là aussi tu avais fini plus tard. Un roman que lui avait
commencé. En fait. Il avait commencé un roman et je l'ai terminé. Alors, on avait déjà travaillé ensemble sur plusieurs nouvelles, on avait publié plusieurs nouvelles. On avait même écrit un Gore ensemble, d'ailleurs, un roman de la collection Gore. Là, donc, il avait démarré un roman qu'il n'avait pas eu l'occasion de terminer. Et puis, bon. Il est mort. Et donc, c'était Combalot, d'ailleurs, qui avait récupéré le manuscrit et qui m'avait dit: est-ce que ça te dirait de. Comme toi, tu as l'habitude de bosser avec lui. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a fait plaisir d'abord de pouvoir terminer son bouquin. Hein. C'était un petit peu quelque chose que je faisais aussi pour lui, d'une certaine manière. Quoi. Mais ça n'a pas été si facile que ça, parce que j'ai dû me réapproprier, il en avait écrit quand même une très grosse partie, et donc me réapproprier sa partie de manière à l'assimiler, pouvoir la ressortir avec une articulation un peu différente pour pouvoir boucler le tout forcément à ma manière, parce que tout en tenant compte bien sûr de tous les vecteurs que lui avait déjà initiés, ça a été beaucoup plus dur. Je pensais que ça allait être plus facile. Bon, voilà, il y avait, je sais pas comment, il y avait 200 pages, on en fait encore 200 et puis c'est terminé. En fait, pas du tout. Ça a été très 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 compliqué. Ça a été très compliqué parce que j'ai dû assimiler. Pourtant, je connaissais bien son univers. Hein, on avait déjà. Mais quand il s'agit de vraiment l'intégrer pour pouvoir arriver à boucler un récit complet avec ses propres fantasmes et les siens, etc. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais, mais j'en ai quand même un peu sué. J'étais vraiment satisfait du résultat parce que ça m'avait coûté pas mal d'énergie.
Et ça, le fait de se plonger, parce qu'on l'a pas dit, il y a aussi tout le travail de traduction, de traducteur, et le fait de se plonger dans l'univers d'un autre auteur, c'est pas forcément un exercice simple. Est-ce que ton travail de traducteur aussi, il peut nourrir ton travail d'auteur de fiction ?
Oui, que nous, déjà, toutes les lectures, en fait, toutes les lectures ou toute la vision des films nourrissent le travail d'un auteur, hein, de toute manière, je pense. Mais là, encore plus, parce que là, on rentre vraiment dans la mécanique de l'écriture. Donc, ça, c'est très intéressant, parce qu'il s'agit de rendre, en plus, en français, le rythme, la musicalité, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, finalement, la fluidité d'une autre langue. Donc, on est obligé de voir comment les phrases sont structurées, comment tout ça est combiné. Oui, c'est très intéressant. Au niveau du style, c'est très intéressant. Maintenant, au niveau du contenu, c'est comme n'importe quelle autre lecture, en fait. Hein. C'est une lecture ou une traduction, c'est pareil. On lit un auteur et ça apporte toujours quelque chose. Mais au niveau de la structure du récit, la structure des personnages et du style, oui, c'est très intéressant. Parce que là, on est obligé d'aller plus loin qu'une simple lecture. Bon, quand on est auteur, on lit toujours un peu différemment, on a toujours tendance un peu à voir comment le bouquin est construit, etc. Mais là, on est vraiment obligé d'aller au fond de la phrase, quoi, enfin, au fond de la phrase. Et ça, c'est très intéressant. Oui, ça apporte toujours quelque chose, oui, bien sûr. Surtout si l'auteur est un auteur intéressant, bien sûr.
Alors, vous n'hésitez pas à intervenir sur les questions, d'ailleurs. Et quelque chose qui est assez étonnant, on le retrouve souvent dans le livre, il y a souvent des scènes de bar et des scènes où les personnages ils vont délirer, prendre des drogues aussi.
Ah, mais ça, c'est du vécu, hein. C'est
bah oui,
ça,
c'est du vécu.
Ça, c'est la partie la plus réaliste de mes bouquins, en fait.
Oui, parce qu'il y a quand même souvent des scènes assez importantes qui se passent dans des bars.
Oui, mais parce que je trouve que c'est des lieux un petit peu, c'est des nœuds temporels, quoi. Surtout en pleine nuit, c'est des endroits où on se retrouve et où on se perd, quoi. C'est vraiment des presque des lieux de féerique, quoi, par moments. On peut être ailleurs, évidemment, avoir aidé un petit peu par l'alcool, bien évidemment, par une ambiance, par... Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir pas mal de bars qui en fait étaient des nœuds de transport temporel. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est pas mal à ce niveau-là, c'est un roman de Fritz Leiber sur les guerres modificatrices, je crois que ça s'appelle le truc général. Et il y a tout un récit qui se passe dans un bar, justement. C'est le bar où les. Ceux qui participent à la guerre temporelle se retrouvent à un moment donné, viennent un peu se reposer, et en fait tout le bouquin se passe dans le bar. Et c'est vrai que bon voilà, c'est des lieux, c'est des lieux intemporels, des lieux magiques. Puis effectivement, il y a quand même un peu de vécu, c'est clair, quoi.
Et d'ailleurs, c'est dans un des livres, alors, je crois que c'est dans la réédition de Narcose, où il y a un CD avec, parce que ça c'est l'éditeur La Volte qui le fait pas mal. Et donc c'est le CD une soirée au Lemnos Club.
Soirée au Lemnos Club, donc qui est censé être une soirée qui se passe dans un des tripots du roman, avec les musiques qui sont censées passer dans ce club. Et donc les musiques ont été.
Oui, parce que Jacques Barbier est aussi un musicien, depuis presque en parallèle à l'écriture, t'as commencé.
Ouais, j'ai peut-être même commencé avant avec des petites boîtes en plastique et des élastiques tendus pour jouer de la basse. J'avais comme ça. C'était du pur bricolage.
Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect.
Ah oui, ça c'est son... l'avantage de la Volte. Oui. C'est de pouvoir de temps en temps associer un CD. Une ambiance musicale au bouquin. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était plus vrai, parce que justement, il y avait vraiment un intérêt, c'était de, tout d'un coup, d'imaginer quelle pouvait être la musique d'un des clubs de Narcose, donc ville imaginaire du roman. Quoi. Et il y a eu aussi un CD avec Mondocan.
Oui.
Qui là est carrément une illustration des moments clés de... du roman avec les montagnes de corps, etc.
Et justement, par rapport à ton œuvre, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs périodes. Je dirais qu'à un moment, par exemple, il y a la période de présence du futur. Comme là, depuis quelques années, il y a la période de la volte. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une œuvre qui est aussi liée à des rencontres avec des éditeurs. Enfin, je ne sais pas.
Oui, mais en fait, j'ai eu la chance, oui, forcément, puisque j'écris des trucs qui sont quand même un petit peu particuliers, hein, faut reconnaître, c'est souvent un peu borderline, et j'ai eu la chance de rencontrer des éditeurs qui, à chaque fois, m'ont permis de faire un peu ce que je voulais, quoi, c'est-à-dire de ne pas miser sur il faudrait peut-être que tu fasses ci parce que ça se vendra peut-être mieux ou quoi. Voilà, j'ai eu la chance d'abord de tomber sur Elisabeth Gilles, qui a publié En présent du futur, mon premier recueil de nouvelles, qui était quand même pas un recueil très très facile, cause mon crime. Après Jacques Chambon, alors Elisabeth Gilles avait initié Limite, l'anthologie Limite, qui était donc une anthologie qui réunissait des auteurs qui, pour la plupart, avaient déjà publié en présence du futur des romans un petit peu particuliers. Et cette anthologie, en fait, consistait à essayer d'explorer un petit peu une tentative d'exploration de ce qui pouvait se situer entre les littératures de genre et la littérature générale. C'est-à-dire voir comment concilier les deux, voir si une synthèse était possible ou s'il y avait un courant intermédiaire. Et donc le projet était quand même déjà un petit peu farfelu. Donc Elisabeth Gilles nous a donné le feu vert. Entre temps, elle a quitté De Noël et c'est Chambon qui a hérité du projet, c'est lui qui l'a sorti. Et alors ce projet, alors à l'époque on en a beaucoup parlé, mais il a été laminé par tout le milieu de la SF parce qu'on sortait d'une certaine orthodoxie. Oui, mais c'est plus de la SF, donc etc. Parce qu'à l'époque il y avait quand même une vision de ce que devait être la science-fiction, de ce que devait être le fantastique. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on est quand même rentré dans une ère de la fusion où tous les genres se sont un peu mélangés, où dans la littérature générale, il y a souvent des bouquins qui sont présentés comme des bouquins de mainstream mais qui en fait procèdent pas mal du thriller ou de la science-fiction. À l'époque, ça avait été très difficile et c'est un bouquin qui a quand même marqué à l'époque parce qu'on a essayé justement de jouer un peu la fusion et de dire bon, on s'en fout quoi, je veux dire science-fiction, pas science-fiction, littérature générale ou pas, c'est pas le problème. Le tout, c'est d'explorer en fait, c'est d'explorer de nouveaux territoires quoi, littéraires. Et c'est une anthologie qui était passée très très difficilement à l'époque. Je ne sais plus quelle était la question de départ, en fait.
Là, on parlait justement des rapports aux éditeurs.
Ah oui, voilà. Et donc, effectivement, alors Chambon, qui m'a permis de sortir pas mal de bouquins, 4 ou 5 romans en présent du futur. Après, la situation d'édition à ce moment-là était quand même devenue assez catastrophique. C'était fin 80, début 90. L'édition, d'une manière générale, était un peu down. Et alors, la SF avait complètement chuté, complètement disparu. Elle a refait surface au milieu des années 90 et puis avec l'appel des années 2000, alors là, elle est repartie à fond. Mais à ce moment-là, il y a eu un gros trou, donc moi, j'ai carrément arrêté de publier puisque c'était plus possible. Et j'ai eu une activité plutôt scénaristique. J'ai écrit des scénarios pour la télé. Une expérience qui a été un peu, enfin, assez pénible d'ailleurs. Et j'ai pu donc de nouveau recommencer à écrire avec une certaine liberté, parce que c'était ça où sinon c'était pas possible, avec Mathias Séchiné de La Volte, qui non seulement effectivement m'a permis de rééditer Narcos, de finir la trilogie, puisque c'était une trilogie prévue au départ, il n'y avait eu que deux volumes publiés, mais il était d'accord pour tout republier, que Narcos soit, comme tu dis, director scotisé. Le deuxième, qui me paraissait bon tel qu'il était, La Mort du crime, a été réédité, et d'en écrire un troisième, et avec un CD en plus. Enfin, c'était pour un auteur, c'est absolument incroyable de pouvoir finir une boucle, une trilogie, et d'avoir en plus la possibilité de faire une musique qui va avec. Donc voilà, et Mathias, tout est possible, quoi. Et à partir de là, effectivement, j'ai pu faire des bouquins que j'aurais jamais fait ailleurs. C'est clair que sans la rencontre avec Mathias, j'aurais peut-être écrit un bouquin sur les 7 ou 8 que j'ai écrit avec lui, quoi. Et les recueils de nouvelles, n'en parlons pas. Il m'a sorti deux gros recueils de nouvelles. Il y en a un troisième qui devrait sortir et qui représenteront pratiquement l'intégralité de ce que j'ai écrit en nouvelles. Ce qui est là aussi, alors que bon, c'est des bouquins très difficiles à vendre. En plus, bon, c'est quand même des textes pas évidents. Oui, c'est la rencontre avec un éditeur est fondamentale. Là, en l'occurrence, pour moi, elle a été fondamentale, c'est clair.
Puis là, c'est vrai, bon, là, on les voit, ils sont, la plupart sont sur la table, là, les livres avec la Volt. Ouais, t'as pas chômé.
Ah oui, oui, puis, oui.
Bah, depuis la rencontre avec Mathias et Chenet.
Ah oui, bah oui, à partir du moment où tous les projets que je lui propose, il est OK. C'est même lui, d'ailleurs, souvent, qui l'Enfer des masques, c'est lui qui me l'a plus ou moins. Qui m'a plus ou moins incité à l'écrire, en fait, de faire un roman qui était plus thriller, puisque j'étais toujours à la limite du thriller. Il m'a dit, mais fais-en un qui soit vraiment beaucoup plus thriller. Et donc, voilà, j'ai fait. C'est pour ça que celui-là est plus près des personnages, il est beaucoup plus. Mainstream, c'est un grand mot, mais.
Il y a quelque chose de plus accessible.
Voilà. De temps en temps, ça fait pas de mal, peut-être. Ouais.
N'hésitez pas à intervenir. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'univers de Barbery ou pas.
Bah, allez lire une petite nouvelle et puis après on en discute.
Par rapport à ce que tu disais avec la collaboration posthume avec Emmanuel Joanne, donc tu as hérité des 200 pages qu'il avait écrites et il n'y avait plus rien ou après il y avait des notes à côté?
Non, il n'y avait plus rien.
Il n'y avait plus rien. Donc, à toi de finir.
Sans... Ah, c'était open en fait. Okay. Donc, c'est pour ça que c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'il fallait que je me réapproprie sa partie en fait. Je voulais pas. Alors, il y avait des parties qui étaient. Parce qu'il l'avait pas revue évidemment. Hein, donc, il y avait des parties qui étaient un peu bancales, il y avait d'autres parties qui étaient parfaites. Celles-là, je voulais les garder telles quelles. Hein, évidemment, je voulais pas les toucher. Donc, voir comment. Et puis, à partir du moment où j'avais une trajectoire globale, j'étais obligé de réintervenir aussi un peu dans sa partie. Je ne pouvais pas garder sa partie telle qu'elle. Il fallait que je restructure quand même la totalité, tout en gardant le plus, je voulais en garder le plus possible, mais il fallait. Et ça a été, oui, ça a été un boulot vraiment très particulier, sans pouvoir discuter, évidemment, en étant tout seul avec le matériel et voilà, et faire des choix. Puis en voulant quand même être un peu à la hauteur du truc, quoi, parce que bon, j'avais envie de faire un truc qui tienne, qui soit quand même. Voilà, pour. Sinon, ça n'avait aucun intérêt, quoi, de faire vraiment. Ouais, dont lui aurait été satisfait. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand je faisais un truc, parce qu'il y a toujours de temps en temps un peu d'humour avec Emmanuel, en plus, il y avait pas mal de passages assez. Second degré, bon, etc. Et il y a des moments où en écrivant certains passages, je rigolais avec lui, quoi. Il n'était pas là, mais je rigolais avec lui. C'était, là, je me disais, là, t'es bon, là. Là, c'est bon. Je sentais que j'étais vraiment sur le truc, quoi. Non, ça a été une forte expérience, mais difficile.
Oui, surtout qu'il a un style aussi assez fort, lui, au niveau.
Voilà, exactement. Exactement. Forme, exactement. Alors, j'ai quand même un petit peu trouvé comment gérer ça. C'est que j'ai fait un partage des personnages. Et certains personnages correspondent. Ceux qu'il avait le plus traités. Je les ai laissés à Emmanuel, j'ai récupéré les autres de manière à ce que les caractérisations des personnages soient dues ou à Emmanuel ou à moi. Donc ça facilitait déjà un peu le boulot. En faisant un partage des personnages, en fait. Il y avait des personnages qui étaient évidemment, c'était lui, quoi, il n'y avait pas de problème, et je les ai laissés tels quels, c'était lui. Et d'autres sur lesquels il avait moins travaillé, je les ai récupérés et c'est devenu mes personnages, en fait. Donc du coup, ça a pu fonctionner comme ça, parce que bien sûr, il a un style aussi très. Après, on a bossé souvent ensemble, et on avait écrit pendant un ensemble. Alors, on arrivait à faire une espèce de synthèse aussi parfois entre nos styles. Alors, on reconnaissait toujours, hein, bien sûr, hein, mais bon, il y avait un rapprochement qui pouvait s'effectuer quand même entre les deux approches.
Pour les collaborations antérieures, par exemple, il écrivait un chapitre, toi, suivant.
Ouais. On se relayait à la machine, tatac. Bon, on avait discuté un petit peu à l'avance, mais on partait quand même un petit peu avec la gourde et le sac à dos, quoi. C'était... Mais oui, donc on avait l'habitude, voilà, de... Mais là, c'était pas pareil, il était pas là, quoi. Donc, bon.
Et en général, un récit, un roman, ça part d'où? Ça part d'une idée? Tu parlais des influences diverses.
C'est très difficile à dire. En fait, j'arrête pas de prendre des notes. Au début, je faisais pas ça. Il y a 30 ans, je faisais pas ça. Là, maintenant, je prends des notes tout le temps. Mmh. J'ai des idées de nouvelles et de bouquins, j'en ai plein. Et il s'avère, assez curieusement, qu'à chaque fois que je démarre sur un bouquin, c'est jamais celui sur lequel j'ai accumulé un tas de notes. Alors pourquoi, tout d'un coup, franchement, je sais pas, c'est très difficile à dire. Il y a un moment donné, je me dis, ouais, c'est celui-là, ouais, il faut que je parte là-dessus. Qu'est-ce qui le détermine? Je sais pas, je sens qu'il y a un truc, une ligne de force plus valable que sur les autres, quoi. Et puis j'aime bien oublier, c'est-à-dire que voilà, il y a des trucs que je note, il y a des trucs que je note pas, je les ai dans la tête, mais ce qui finit par rester à la longue, c'est peut-être ce qui finit par s'imposer en fait. Et c'est ce que j'ai dans la tête, plus que les trucs que j'ai notés. Si un truc m'est resté dans la tête, c'est que voilà, alors j'ai pas pris de notes là-dessus, mais c'est là. Donc et c'est pour ça que je parle là-dessus. Et si c'est resté là, si j'ai cogité là-dessus pendant un moment, c'est que peut-être. Il y a de quoi faire, quoi. Et il s'avère qu'en général, bon, ben, une fois que je pars, alors c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on part sur un truc, ça peut ramener un peu au début quand même. Puis il y a toujours un moment donné où on sent que c'est bon. Que les personnages, tout d'un coup, et on sent que c'est bon parce que les personnages, tout d'un coup, enfin, moi, ça se passe comme ça, commencent à acquérir une certaine autonomie, en fait. Alors c'est faux parce que c'est quand même toujours moi qui les drive, mais il y a des moments où j'ai l'impression qu'ils m'échappent, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, je dis non, putain, tu vas pas faire ça quand même, c'est pas possible. Mmh. Et puis finalement, oui. Mais c'est parce que, à partir du moment, je pense, à partir du moment où les personnages ont une certaine épaisseur, une certaine consistance, un certain caractère, il y a des actions qui s'imposent à un moment donné par rapport à la structure globale, il y a des actions qui se passent aux événements, il y a des actions qui s'imposent comme elles s'imposeraient dans la réalité d'une certaine manière. Et ça m'échappe un peu, sans m'échapper, puisque bien sûr, il y a une petite partie de mon cerveau qui est là pour actionner le truc, mais moi, j'ai l'impression que ça m'échappe. Et tout d'un coup, là, c'est un moment jouissif, quoi. C'est, parce que, voilà, ça part, quoi. Et c'est. Et en général, c'est bon, à ce moment.
Et d'ailleurs, tu parles des personnages, et ça, c'est. Il y en a certains qui reviennent presque depuis les débuts. Ouais. Il y a Anton Ravone.
Ouais. Il y en a plusieurs.
Il y a Jacques Ebner aussi. Mais ça, c'est assez proche du tien.
Ah ouais, mais ça s'est fait un peu aussi à l'insu de mon plein gris, mais petit à petit, tout se raccorde un peu. C'est-à-dire que je finis par avoir une espèce d'univers global qui s'appelle la structure, en fait, et avec une espèce de guerre en toile de fond quantique entre les mouches et les araignées, les unes anthropiques et les autres néganthropiques, mais ça, on le voit jamais, c'est à faire presque jamais ce genre de fond. Puis avec des univers emboîtés les uns dans les autres, comme dans Narcos, avec les rêveurs, les trucs. Et finalement, je me débrouille toujours plus ou moins pour raccorder par un biais ou par un autre les textes entre eux. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Alors, soit par un personnage qu'on retrouve, soit par une situation, soit par voilà, une espèce de guerre qui se déroule dans le lointain, on ne sait pas trop où, mais qu'on retrouve dans un autre texte. Et j'aime bien que tout petit à petit soit un petit peu raccordé, une espèce de toile d'araignée comme ça.
Ben oui, d'ailleurs, des araignées, il y en a souvent.
D'ailleurs, les araignées.
Mais les insectes, t'aimes bien.
D'ailleurs,
ça,
les araignées, il y en a souvent. Les insectes aussi, oui. Oui, ben oui, parce que là, les métamorphoses, bon, là, c'est le cycle holométabolique avec l'œuf, la larve, la chrysalide. La chrysalide, c'est quand même un truc totalement mystérieux, quoi. À un moment donné, une espèce de bouillie à l'intérieur, et puis il sort un truc totalement différent de ce qui est rentré au départ. Donc, ouais, c'est assez fascinant, en fait. Les insectes, ça m'a toujours fasciné. C'est les premiers aliens, en fait, que j'ai découverts. J'ai fait beaucoup de photos d'insectes d'ailleurs quand j'étais jeune. Au début, je chassais les papillons. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, quand t'as arrêté de les tuer, c'est un peu con. Autant les photographier. Et donc, je me suis mis à faire de la photo d'insectes. Et d'araignées d'ailleurs, bien sûr, parce que ce n'est pas des insectes, mais en fait, ça me fascine aussi.
Et du coup, quand t'as une structure aussi grande, du coup, que ça se propage d'un bouquin à l'autre, est-ce que tu peux. Totalement improviser à l'intérieur, te perdre dedans en toute liberté, ou tu dois toujours avoir en tête ce que tu as déjà écrit avant.
Non, je n'ai jamais en tête tout ce que j'ai écrit avant. À un moment donné, je fais le lien avec un autre texte ou un autre roman, mais j'essaye pas d'avoir une vision absolument globale. Non, ça, c'est un peu mégalo, je pense.
Ça serait difficile.
C'est Moorcock qui a essayé de faire ça, d'unifier tout son univers, mais bon. Peut-être je ferai ça peut-être un jour, je sais pas, mais je crois pas.
Et n'hésitez pas. Petite question. Après, il y a tellement de livres, on ne sait pas s'il y en a un sur lequel on met l'accent plus que d'autres.
Ben, je ne sais pas, pour démarrer, si quelqu'un n'a jamais lu mes bouquins, je pense que c'est quand même plutôt le dernier. Je crois que c'est plutôt l'enfer.
L'enfer des masques, oui.
Qui est beaucoup plus thriller, alors mainstream, encore une fois, c'est un grand mot, mais.
Le crépuscule des chimères avait aussi peut-être. Le
crépuscule des chimères, il est violent quand
même. Moi, je pense que Narcos.
Peut-être Narcos, je sais pas. Enfin, après, je suis peut-être pas.
Parce que Narcos, tout à fait par rapport à ce que tu as dit, Jacques, c'est complètement ça, mais en même temps, il y a quelque chose dans. Il parlait beaucoup de rêve. Et il y a quelque chose dans Narcos qui est quelque chose d'invisible. Qui est sur le fil de la page.
Oui,
ça,
j'aimerais. Oui, mais il est quand même pas.
Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Ouais. Et franchement, c'est une œuvre majeure en science-fiction, quoi. Même plus que ça. Voilà. Et ça, j'aimerais t'en parler un peu plus.
Bon, ben Narcos.
Non, mais c'est vrai que Narcos, vu qu'en plus il y a cette trilogie, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important.
Oui, non, mais là, moi, je voudrais juste la difficulté ou la facilité de rentrer justement dans ces univers. Je pense que le dernier, c'est quand même le plus. Il est à part un peu, quelque part, puisqu'il est plus orienté thriller, il est plus. Bon, alors après, sur la fin du bouquin, on retrouve toujours les connexions. Mais après, Narcos, oui, après, moi, bon, ça m'est difficile peut-être, moi, de juger.
Franchement, honnêtement, Narcos.
Okay.
Alors, c'est une trilogie, attention.
Après, ça suit. Oui, mais tu peux lire les bouquins indépendamment, les trois, donc il n'y a pas de souci.
Mais pas
se sentir obligé après de lire le reste.
Après, c'est peut-être celui où il y a aussi ton vocabulaire, parce qu'il y a pas mal de mots inventés aussi, un nouveau langage dans nouvelles drogues d'ailleurs aussi dans tes livres.
Des nouveaux cocktails.
Oui.
Mais oui, puis il y a la musique.
On a le temps pour une dernière question peut-être, et après Jacques sera à côté pour signer des livres.
Moi, je vais lui poser une question. Tu peux nous parler de ton futur livre ?
De ?
Ton futur livre.
Oh là là !
Oui, parce qu'en faire des masques, c'est 2019 déjà.
Mais mon futur livre, lequel tu veux dire ? Celui que je suis censé terminer ?
Non,
il dit ça, il me pose cette question parce qu'en fait, je suis sur un bouquin depuis 20 ans qui s'appelle Terre de vérité, sur lequel je reviens sans arrêt et que je n'arrive jamais à terminer. Donc. Là, j'étais censé le terminer. Non seulement j'étais censé le terminer parce que l'éditeur, là, vraiment l'attendait, quoi, mais en plus de ça, j'ai même eu une lettre du CNL. Et j'arrive toujours pas à le terminer. Voilà. Donc j'ai une espèce de blocage sur ce bouquin. Peut-être parce que j'ai eu une espèce de prétention, un truc un peu mégalo au départ d'en faire le bouquin. Voilà, alors que j'aurais dû voir ça comme un bouquin un peu plus complexe que les autres, mais ou un peu plus difficile à faire que les autres, mais sans plus. Je sais pas, ça m'a peut-être bloqué. Toujours est-il que j'ai vraiment dû. Alors là, je pense que ça y est, j'ai débloqué la machine.
Ah.
Mais bon.
Du coup, tu nous parles pas du sujet.
On va poser les tentatives.
Le sujet, c'est sur c'est sur l'humain en fait. Pourquoi l'humain est-il aussi suicidaire, autodestructeur sur la violence sur. Sur le mal, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à décoller de la godasse. Quoi. Voilà. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu simple, mais quand on voit le truc sous un angle global, vraiment général, c'est quand même assez complexe. Et c'est un bouquin auquel je tiens beaucoup, mais voilà, je sais. Alors, il y a déjà l'idée qui est difficile à gérer, et puis la façon dont je veux le structurer aussi. J'arrête pas d'avoir des idées différentes sur la manière dont le structurer. Je voulais faire un truc un peu moléculaire au départ, c'est-à-dire comme s'il y avait des cellules qui se rencontraient, qui repartaient. Voilà, j'ai des idées comme ça un peu farfelues sur l'aspect structurel et technique du bouquet. Et à chaque fois, je crois être sur la bonne voie, et puis en fait, non. Mais là, bon, tout récemment, j'ai l'impression d'avoir trouvé la clé. Je sais pas, on verra. Terre de vérité, peut-être d'un Dusa. Ou peut-être l'année prochaine, je sais pas.
Le titre est prometteur.
Hein?
Le titre est très prometteur.
Voilà, le titre.
Oui, parce que même s'il y a quand même pas mal d'humour dans tes bouquins, le fond reste souvent assez sombre.
Ouais. Enfin, sombre, oui.
Très sombre. Disons qu'il y a une vision...
Réaliste.
Réaliste, ouais, vous êtes peut-être ça le mot, en fait. Ouais, c'est peut-être le mot plus adéquat.
Ben, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, hein, je veux dire, c'est plus sombre, à mon avis, que ce que je trouve dans mes bouquins.
Ben oui, sûrement.
Donc, je pense qu'en fait, je fais des bouquins très réalistes. Mmh. On dit toujours que c'est noir, mais...
Mmh. Bon, enfin, il y a beaucoup d'humour, hein,
Oui.
Pour faire passer la pilule. Allez-y, je vous laisse la dernière question.
Attends, moi je bois parce que j'ai très soif.
Oui, faut pas hésiter.
Putain, ces trucs, c'est infernal.
Bon, mais sinon, bah, écoute, Jacques, on te dit bah, merci beaucoup. Et puis bah, nous, on continue, on va continuer au Gaumont ce soir. Avec deux films de la 10e victime antivirale. Et bah, n'hésitez pas à suivre le premier, il est à 19h45. Et le second à 21h45.
Le premier un peu plus léger, le deuxième est assez dark.
Ouais. Ouais, merci.
Come on. Merci.